IDFM Radio, le média valdoisien.
IDFM Radio, il est l'heure d'accueillir de nombreux invités en plateau, en studio, 26 bis rue de Morat en Guyane-les-Bains. Nous sommes tout d'abord avec Fred de la librairie Impression, librairie anguinoise. Salut Fred.
Bonjour Christophe.
Un habitué puisque tu passes régulièrement faire tes chroniques coup de cœur BD ou manga avec Lola et Morgane le jeudi. Et là, on a un invité exceptionnel puisqu'il sera de passage chez toi, chez vous, à la librairie Impression le samedi 25 avril à partir de 16h. C'est un illustrateur, mais bien plus que ça, c'est Hubert Maury. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour Christophe.
Et puis un voisin en plus, hein, vous êtes sur Anguin, je crois.
Oui, j'habite Anguin.
Depuis combien d'années?
Depuis une vingtaine d'années.
Et tout se passe bien, vous êtes content?
Bah oui, ravi.
Vous voyez de beaux paysages avec le lac, le casino.
Le casino, ses librairies.
Ses librairies aussi, oui, tout à fait. Mais comme vous êtes illustrateur, dessinateur, vous avez déjà un petit peu dessiné la ville d'Anguin ou pas du tout?
Ah, j'ai dessiné la ville d'Anguin, mais je crois ne l'avoir jamais placée dans une bande dessinée, oui. Mais sinon, j'ai
je me rappelle
la ville d'Anguin.
Une carte de vœux d'Hubert avec toute sa famille au bord du lac. Avec...
Voilà.
Bon, on vous en veut pas. C'est vrai que vous êtes assez axé en règle générale sur ce que vous avez vécu auparavant, puisque vous êtes un ancien officier. Vous parlez à travers vos différentes bandes dessinées de la guerre, des conflits. C'est,
oui,
c'est quelque chose en tout cas qui vous anime et pourquoi déjà étant enfant vous avez été sensibilisé aussi, pas sensibilisé mais vous avez vu des images, des reportages et vous vous êtes dit un jour j'aimerais justement dessiner sur ces journalistes, sur ces femmes, sur ces soldats.
Non, je pense que c'est plutôt une expérience professionnelle qui m'a amené ensuite à faire de la bande dessinée et parler de contexte géopolitique parce que comme vous l'avez dit j'ai été officier dans l'armée. Puis j'étais diplomate aussi, donc j'ai rencontré des gens. Et au début, je m'intéressais beaucoup aux gens que j'ai pu rencontrer dans les différents lieux à l'étranger, généralement en ambassade ou sur des théâtres un petit peu de crise. J'en ai fait des histoires. Mais c'est pas tant mes lectures, sinon que effectivement dans la bande dessinée, moi j'appréciais particulièrement une petite héroïne, mais plus personne ne sait qui c'est, peut-être
si,
sauf Fritz,
si, moi
c'est
je
Jeannette
sais.
Pointu.
Donc votre héroïne d'enfance, cette jeune reporter, photographe, journaliste. Hein.
C'est ça.
Donc Jeannette,
Jeannette Pointu.
Ce personnage qui vous a beaucoup inspiré. Hein.
Ouais, il m'a particulièrement touché à l'époque parce que c'était rare qu'on puisse lire des bandes dessinées où le réel était si présent. Et j'avais l'impression que c'était la première fois, parce qu'il y avait Tintin qui était reporter aussi, mais c'était pas dans le réel, c'était vraiment des aventures pour les enfants. Et enfin, même s'il y avait un côté très très sérieux, etc. Mais dans Jeannette Pointu, on était en Afghanistan, on était au Cambodge, on était sur le rallye Paris-Dakar. Ça me paraissait très très intéressant, cette façon de pouvoir traiter par la bande dessinée le monde qui nous entoure.
Et une série de BD créée par
Marc Westerlin.
Que vous avez rencontré
belge, que j'ai rencontré à la foire du livre de Bruxelles il y a quelques semaines.
Bon, vous aimez beaucoup la Belgique, mais on a l'impression que la BD, elle est belge, en règle générale. Je sais pas, je dis ça comme ça vite fait, mais...
Elle est franco-belge.
Parce que vous citez aussi dans vos références Joseph Gilin,
oui.
Gigé, hein, qui est un artiste belge aussi, qui nous a quittés il y a quelques années, et qui lui aussi vous a beaucoup inspiré dans les années 80.
Fait. Oui, parce que il y avait deux pères, en fait, deux pères de la bande dessinée franco-belge. Il y a Hergé, bien sûr. Et puis, il y a Joseph Gilin, qui est beaucoup moins connu, mais qui a formé toute une pléiade d'auteurs extrêmement marquants pour ceux qui lisent de la BD franco-belge.
Pour le côté réaliste.
Même humoristique, parce qu'il a formé Franquin, il a formé Will, Maurice, mais il a formé pour le réalisme, effectivement, Jean Giraud Moebius ou Christian Rossi. Donc c'est une personnalité très très importante de la bande dessinée, malheureusement, qui n'a pas la même notoriété que celle d'Hergé.
Du coup, Dissident Club ou encore Diplomatie Clandestine, ça c'est des BD qui sont sortis dernièrement, et c'est après avoir été officier, finalement, que vous vous êtes réellement intéressé à créer des histoires autour de ces différents personnages.
Oui, alors c'est après avoir...
Ça se passe en quelle année à peu près?
Ça se passe maintenant. En fait, Dissident Club, ça démarre il y a quand même quelques années, puisque c'est l'histoire d'un journaliste pakistanais qui a, comme chacun de nous, été enfant. Donc on démarre dans les années 80 et ça se termine juste après les attentats de Charlie Hebdo.
Voilà, on le suit enfant, on le suit adolescent, on le suit et après on le suit dans son activité de journaliste.
On comprend son parcours, on comprend pourquoi d'un seul coup, il renonce à cette au caractère, enfin la formation qu'il reçoit de son papa, qui devient un musulman radical et que, à force de rencontres, il finit par devenir un grand reporter d'investigation qui le mène là où il aurait jamais dû aller, c'est-à-dire poursuivi par les services secrets de son pays pour finir finalement réfugié politique en France.
Donc c'est l'histoire vraie d'un journaliste qui s'appelle Taha Siddiqui.
Il s'appelle Taha Siddiqui
et qui a subi une tentative d'assassinat.
Absolument, par les services secrets de son pays.
Et donc vous le racontez à travers cette BD, voilà. Donc Dissident Club. Il y a un sous-titre aussi.
Chronique d'un journaliste pakistanais exilé en France.
Vous étiez déjà passé, je crois, justement, à Enghien, oui. À la librairie, hein, pour dédicacer.
J'étais passé à la librairie, j'étais passé à la radio aussi.
Alors, c'était pas avec moi, il me semble, en tout cas, mais vous étiez déjà venu, effectivement, ouais. dans nos studios. Et avant, il y avait aussi le Pays des Purs, oui. Ou encore Fête Himalayenne.
Voilà. Le Pays des Purs, c'est mon premier livre en BD. Alors, j'avais fait déjà un peu de bande dessinée dans le journal de Spirou, de façon très sporadique, des petits récits complets. Plus destiné aux enfants. Le Pays des Purs, ça vient d'une rencontre que j'ai faite quand j'habitais au Pakistan avec une journaliste qui s'appelle Sarah Caron et qui débarque au Pakistan parce que il y a un événement. Alors effectivement, est-ce que ça va parler à nos auditeurs? C'était le retour de Benazir Bhutto, qui est une femme très très importante au Pakistan parce qu'elle était premier ministre plusieurs fois, je crois, au Pakistan. Et là, elle a subi un exil et elle revient pour se présenter aux élections générales. C'est en gros en 2007. Sarah veut la rencontrer pour l'interviewer. Et au moment où elle veut l'interviewer, Benazir est assassiné. Un assassinat politique. Et donc Sarah me raconte ça en direct live et quelques années après, je décide avec elle de raconter cet épisode extrêmement intéressant sur l'histoire d'une petite journaliste qui débarque dans un pays dont elle ne connaît rien et qui se retrouve confrontée à un assassinat politique d'envergure. Et ça donne vraiment un récit très romanesque.
Le Pakistan, vous y avez été à plusieurs reprises?
L'Afghanistan, j'y ai été par deux fois et en Pakistan, enfin j'ai fait des séjours de... Alors, en Afghanistan, je suis resté un an. Ensuite, je suis parti au Pakistan 3 ans. Ensuite, je suis revenu en Afghanistan 2 ans.
Et vous saisissez des moments précis, des paysages, des photos, des habitants pour après mettre ça aussi en lumière dans vos différentes BD?
Ouais, j'aime bien saisir et surtout j'aime bien reproduire ce que moi j'ai ressenti. Enfin, essayer de reproduire parce qu'une fois de plus, c'est peut-être pas gagné. Mais le Pakistan que je représente ou l'Afghanistan que je représente, comme le Cambodge d'ailleurs dans mon dernier ouvrage Diplomatie clandestine, il y a toute une partie qui se passe au Cambodge, j'aime bien essayer de redonner l'impression que j'ai vécu là-bas, et c'est peut-être un petit peu d'ailleurs des pays que je fantasme un peu, hein. C'est-à-dire, est-ce que le Cambodge que je dessine est vraiment le Cambodge? J'en sais rien, mais en tout cas moi c'est le Cambodge que j'ai vécu. Ou est-ce que l'Afghanistan que je dessine est vraiment l'Afghanistan qui existe vraiment? J'en sais rien.
Mais tu as toujours eu cette volonté de dessiner? Quand tu étais là-bas, tu dessinais déjà ou...
Ah mais moi quand j'étais en Pakistan par exemple, j'ai fait des BD pour Spirou, mais ça avait rien à voir à ce que je vivais.
D'accord.
C'était des scénarios que m'envoyait le rédacteur.
Non mais vous attendez de revenir ici sur le Val d'Oise à Enghien pour justement composer vos BD.
Exactement.
Vous prenez des photos sur place, mais vous griffonnez un peu aussi sur place ou pas?
Je griffonnais énormément sur place, mais ce qu'il y a, c'est que je n'ai rien.
Pour garder les idées tout de suite.
Et t'avais déjà la volonté de faire des bandes dessinées?
J'avais la volonté de faire des bandes dessinées pour enfants, pas du tout ce genre de bandes dessinées. Oui, il m'a fallu. Il m'a fallu 10 ans pour m'asseoir et me dire tiens, maintenant c'est le moment de faire de la bande dessinée.
Et la BD jeunesse, c'est fini aujourd'hui?
Quasiment, ouais. Non, j'ai illustré des petits livres pour les enfants, pour les éditions Bayard, mais c'est très rare.
Cette passion pour le dessin, elle remonte à longtemps.
C'est ses parents, je crois,
depuis
qui lui ont
toujours,
donné.
Hein, ouais,
c'est
voilà,
vos
c'est
parents.
Ça.
D'accord.
C'est mes parents qui m'ont mis très tôt des albums de bande dessinée dans les mains et donc. Et donc, je me suis mis tout de suite à dessiner Lucky Luke, Jean et Pierre-Louis.
Qu'est-ce qui vous mettait entre les mains, justement, vos parents, leur propre lecture, leur propre BD?
Alors, mon père était un immense fan de Goscinny. Donc, j'ai eu Astérix dans les mains très tôt, avant même de savoir lire. J'ai eu aussi un livre que je ne comprenais pas à l'époque, c'était Le Grand Duduche, qui paraissait dans Pilote. J'ai eu Is No Good, beaucoup de Goscinny, voilà. Mon père, c'était vraiment Goscinny. Et Lucky Luke, bien sûr.
Fallait que ce soit un peu quand même drôle humoristique du coup.
Ouais, il fallait que ça soit drôle humoristique. Donc moi, je me suis vraiment influencé d'un style humoristique à la base.
On retrouve son humour dans ses bandes dessinées parce qu'il y a une pointe. Enfin, il distille un humour qui est incroyable, quoi. Parce que sur des sujets très très lourds, on arrive quand même. Il y a des running gags, il y a des choses. Il démystifie un petit peu le côté très très lourd.
Ce qui n'est pas forcément évident toujours, mais vous arrivez à le faire.
Oui, j'aime bien dire au lecteur, on va prendre un peu de distance par l'humour ou par le dessin, parce que c'est vrai que mon dessin n'est pas super adapté à ce que je raconte. En vrai, il l'est, mais on peut se dire, tiens, on aurait préféré peut-être, ou on se serait dit, tiens, un tel récit, ça mériterait un dessinateur réaliste. Moi, je trouve que c'est bien de mettre de la distance. C'est un peu comme au cinéma, si jamais vous avez une scène plombante, et en plus vous avez une musique plombante, c'est redondant. Moi, j'aime pas trop la redondance. J'aime bien le mélange de genres en plus.
En règle générale, vous faites tout, l'écrit, les illustrations, ou de temps en temps, vous vous dites, j'ai envie que d'écrire, et vous faites appel à un autre illustrateur?
Alors ça m'intéresserait beaucoup de faire ça. J'ai voulu le faire d'ailleurs pour Diplomatie clandestine. J'avais proposé à mon éditeur de le faire illustrer par quelqu'un d'autre, justement un dessin plus réaliste. Et c'est mon éditeur qui m'a dit non, il faut que ça soit toi qui le fasse toi-même, parce que c'est vraiment une histoire qui t'est...
Il est bien cet éditeur.
C'est la plus personnelle en fait des histoires que celles que tu as... Pardon. C'est la plus personnelle de toutes les histoires que tu as pu raconter.
Oui, parce que c'est quand même presque une autofiction là cette fois-ci.
C'est presque une autofiction. Ouais. C'est il y a beaucoup de, bon, évidemment il y a tout un côté romanesque et des fictions.
Scène,
mais effectivement le Cambodge, moi j'y ai vécu, le Pakistan j'y ai vécu, l'Afghanistan j'y ai vécu en ambassade. Donc ce sont des souvenirs, ce sont des gens que j'ai rencontrés sont, enfin bref, toujours est-il que ça, tout ça a un lien et tout ça donne effectivement une sorte de livre, mais la cohérence vient quand même de la fiction entre tous ces événements, tous ces personnages que j'ai pu rencontrer.
On va se retrouver d'ici quelques minutes toujours avec Hubert Maury qui nous parle de sa passion, de son métier, mais aussi de ses derniers ouvrages, notamment Diplomatie clandestine. On va un petit peu plus en parler d'ici quelques minutes. Vous serez le samedi 25 avril à partir de 16h à la librairie Anguénoise Impression pour dédicacer notamment cet ouvrage, mais les autres. Hein, vous avez de temps en temps, je suppose, des lecteurs qui viennent même avec des anciennes illustrations de vous pour vous les faire dédicacer. Et puis vous, quand vous les voyez, vous dites « Ah ben, je m'en souviens pas forcément ».
Oui, ça m'arrive souvent, oui. Surtout en festival, aussi en librairie, généralement, les gens font très attention de quand même venir dans la librairie acheter un livre.
Voilà.
Mais en festival, effectivement, on peut se retrouver avec des livres.
Il y a également une exposition des originaux d'Hubert à la librairie. Une vitrine lui est consacrée avec des reproductions et les originaux, les planches originales de l'album sont à voir à la librairie sous la mezzaline au fond de la boutique.
Merci Fred aussi d'être avec nous, qui nous propose aujourd'hui de vous faire découvrir le scénariste, illustrateur Hubert Maury. IDFM Radio.
We're
BFM Radio, nous sommes toujours avec l'illustrateur anguénois depuis une vingtaine d'années, hein, c'est bien ça, Hubert Maury?
Oui.
En tout cas, vous y plaisez.
Je suis auteur de BD depuis 10 ans voilà, et anguénois depuis 20 ans.
Depuis 20 ans. Merci d'être avec nous, merci de nous parler de vos derniers ouvrages, notamment le dernier qui s'appelle Diplomatie clandestine. Donc ça se passe principalement au Cambodge, hein. C'est une plongée au cœur des services secrets français. Nous sommes toujours aussi avec... Fred de la librairie Impression, librairie anguénoise. Rappelle-nous l'adresse de la librairie, s'il te plaît, Fred.
C'est le 10 rue Jean Monnet, dans le village piéton, en face de la fontaine des cinémas.
Et puis régulièrement, il y a des séances de dédicaces, notamment ce vendredi 24 avril de 16h à 19h. Il y aura la présence de Vanida.
Oui.
Et puis le lendemain, donc, c'est Hubert Maury à partir de 16h aussi. C'est préférable quand même de réserver pour éviter une foule qui attend devant... la
absolument.
Boutique
appelez-nous.
Et qui s'agace, qui s'énerve au bout d'une heure et demie
tout
parce qu'ils n'ont pas pu rencontrer Hubert Maury.
Non, puis ça rend les dédicaces tellement plus agréables quand les gens réservent un créneau horaire. Comme ça, ils peuvent passer un petit peu de temps avec l'auteur, discuter, parler de l'œuvre, etc. Donc oui, réservez. Appelez-nous au téléphone 01 34 12 32 06 et n'hésitez pas à réserver un créneau horaire. On va s'arranger.
Vous avez vécu énormément de choses finalement, Hubert Maury. Une vie palpitante, une vie très rythmée. Mais je rappelle que vous avez été ancien officier. Vous nous avez parlé aussi que vous avez travaillé du côté des illustrations jeunesse, aujourd'hui plus adultes. Pour vous, tout ce que vous avez vécu s'est passé extrêmement vite. Ça a été intense, très chargé.
Aujourd'hui, je me rends pas compte de ça, mais je me dis tiens, heureusement en tout cas que j'ai vécu ça, parce que sinon j'aurais pas grand-chose à raconter. Donc je suis très très heureux de l'avoir vécu. Donc ce que j'ai fait, c'est d'abord vivre des trucs, rencontrer des gens, et ensuite essayer de les mettre en image. C'est ça. Il y a un peu, à l'âge de 50 ans, j'ai commencé à faire ça, pas avant quoi. Donc c'est ça qui est assez drôle.
La dernière BD, Diplomatie clandestine. Comment on pourrait un petit peu la décrire, la qualifier? De quelle façon vous l'avez voulu sur ces différentes étapes? Il y a pratiquement, je crois, 200 pages. Hein.
Il y a plus de 200 pages, il y a 256 pages, je crois.
Donc c'est un long travail de recherche aussi,
voilà.
de faire, de refaire, de mettre le texte de côté, de mettre les illustrations de côté, ou tout faire en même temps. Comment vous procédez?
Non, à la base, je pense que à la base c'est un travail scénaristique. Donc il faut écrire une histoire. Donc vous allez chercher dans vos souvenirs qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui peut. Ensuite, vous bâtissez votre histoire, mais vous la bâtissez. Moi, je la bâtis en écrivant ce qu'on appelle un synopsis qui va être destiné à mon éditeur pour lui dire voilà de quoi j'ai envie de parler.
Et votre éditeur vous dit quelque chose là-dessus ou pas? Non.
Alors là, mon éditeur reçoit le synopsis, le lit et me dit...
Ouais.
Il s'appelle Franck Marguin, il travaille pour les éditions Glénat.
La collection Millefeuille, c'est lui en fait.
Ouais. Pardon Fred?
La collection Millefeuille, c'est lui.
Voilà, il est surtout responsable de la collection Millefeuille, qui est la collection en gros des romans graphiques chez Glénat. Et quand il reçoit le synopsis, il dit « Ok, je match, je vais présenter ça au comité éditorial ». Et là, tout le monde vote. Et le comité éditorial, moi, j'y suis jamais allé parce que c'est pas mon métier. Et puis surtout, c'est
non, mais ce serait intéressant. Non, vous pouvez pas.
Ah non, c'est une grande maison comme celle de Glénat. Je pense que c'est pareil chez Gallimard, pour qui j'ai travaillé aussi. À un moment donné, les éditeurs se réunissent. Et il n'y a pas que les éditeurs. Il y a forcément des gens qui sont chargés peut-être des droits à l'étranger, des gens qui sont chargés également de la presse, des gens qui sont chargés pourquoi pas des droits dérivés au cinéma et qui disent, ou des libraires d'ailleurs.
Oui, non, des représentants de.
Des représentants qui disent cet album mérite d'être vendu, pas uniquement parce que mais parce qu'il y a peut-être un potentiel, je sais pas quoi. Et là ils disent, je sais pas comment ils votent, mais en tout cas ils décident de le faire ou de ne pas le faire. Donc,
il arrive qu'on refasse la couverture, par exemple, parce que les commerciaux disent « Ah non, mais cette couverture, elle va pas du tout, ça va pas plaire au public. » On la refait et ça arrive que la couverture soit changée en cours de route, ouais.
Alors ça, c'est dans un deuxième temps, parce que là, c'est pour l'acceptation du projet.
Mais... On voit quand même une femme qui est en avance sur la couverture donc de Diplomatie clandestine. C'était mettre un peu plus les femmes aussi à l'honneur, ou pas forcément?
Alors non, pas du tout. Enfin, moi, j'ai pas voulu cocher une case pour avoir le... pour avoir le CNL ou quoi. Non, je me suis rendu compte que j'ai créé un petit personnage qui s'appelle Ariana, qui travaille pour les services secrets français, qui est afghane, mais elle travaille pour les services secrets français en Afghanistan, parce qu'elle est juste une traductrice. Et puis finalement, elle prend de la place, elle devient importante, ça c'est au cours de l'écriture du scénario, et je me suis rendu compte que ça devient, alors par hasard, elle s'appelle Ariana, c'est un pseudonyme, mais ça devient une sorte de fil rouge, de fil d'Ariane du récit. Et je me suis dit que cette petite afghane, et c'était au moment, moi j'ai terminé le livre, enfin j'ai terminé le scénario globalement au moment où les talibans ont repris le pouvoir à Kaboul, et j'ai trouvé que c'était vachement emblématique de pouvoir dire à un moment donné où justement le sort des femmes était à nouveau dans une situation détestable, de pouvoir justement faire de ce personnage Ariana un personnage emblématique de la femme afghane, d'où son importance grandissante dans le livre et d'où sa présence en tête d'affiche sur la couverture.
Le pays des purs aussi, hein, c'est une femme en avant. Hein.
Oui, le pays des purs, c'est une femme, et cette fois-ci c'est une femme française, c'est Sarah Caron, reporter.
Donc là, elle vient faire des photos.
Benazir Bhutto derrière. Benazir Bhutto, femme politique pakistanaise pour le coup.
Vous êtes déjà sur un prochain projet là ou pas?
Oui,
vous songez
sur
déjà
un prochain projet.
Vous arrêtez jamais en fait, ça bouillonne tout le temps.
Bah, ce qu'il y a, c'est qu'on est obligé un petit peu quand même de travailler en amont de la sortie d'un livre sur le prochain. Parce que sinon, il peut y avoir une grande période d'angoisse, de pages blanches, etc.
Surtout et autant travailler en pages, il faut les dessiner, donc il faut s'y prendre quand même un petit peu à l'avance.
L'actualité du moment aussi vous fait réagir, vous fait vibrer, ça vous donne envie de prendre un peu plus
le crayon. Je regarde ça avec un regard d'observateur, parce que je suis plus aux affaires, je suis plus diplomate. Je regarde ça, mais je sais que c'est très difficile de pouvoir se faire une idée. Donc de ce qui se passe. Je comprends quand même, par exemple en écho ou en miroir, à Diplomatie clandestine, qui quand même parle d'une affaire d'espionnage, quoi. Je pense que le renseignement est très très important pour éviter justement de prendre des décisions en amont. Le renseignement est important, l'espionnage est enfin, pour éviter de prendre des décisions un petit peu, j'allais dire l'emporte-pièce, mais qui suis-je pour le juger? Mais j'ai l'impression qu'effectivement, par exemple, toute cette histoire de Détroit d'Hormuz, on aurait quand même pu l'anticiper, quoi, avec...
Mais à travers certaines BD, vous dénoncez un petit peu ou pas?
Je dénonce pas,
non,
du tout.
Pas du tout.
Moi, c'est au lecteur de dénoncer. Moi, je présente des faits, j'essaye d'être juste, pas forcément réaliste, une fois de plus, mon dessin ne le permet pas, mais d'être juste, et après c'est pas à moi de dire il faut penser ça, de ça, c'est au lecteur de se faire sa propre idée.
Bon, vous aviez des dossiers de toute façon entre les mains en tant qu'ancien officier, où vous pouviez pas dévoiler non plus certaines choses.
Très clairement, effectivement, ouais. On appelle ça la grande muette, l'armée.
Donc là, vous vous lâchez peut-être un peu plus, même si...
Ouais,
en fait, vous parlez un petit peu des coulisses de
ouais,
ce que vous avez...
Alors, moi, je parle des coulisses. Je l'avais déjà fait, d'ailleurs, dans un roman, cette fois-ci, paru chez Gallimard, qui s'appelle « Des hommes sans nom ». Je parle des coulisses. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est les gens, c'est les mécanismes, c'est les ambiances. Et puis aussi, c'est un peu quand même... Moi, j'aime bien les histoires d'espionnage, parce qu'il y a des coups tordus, il y a des retournements, il y a des twists, il y a des cliffhangers. C'est vraiment... moi, je pense que c'est le genre qui permet effectivement de parler de son époque. C'est une mine inépuisable d'intrigues, les romans d'espionnage. Et puis, surtout, je trouve que c'est vraiment très universel, parce que le métier d'espion, c'est le plus vieux métier du monde, avec un autre métier. Et donc, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des espions. Il y a toujours eu des espions. Et je pense qu'à partir du moment où il y a eu des hommes sur la Terre, l'espionnage a existé, quoi. Et je trouve ça formidable, parce que c'est vraiment universel, voilà.
Eh ben merci beaucoup Hubert Maury d'être passé aujourd'hui sur EDFM Radio. Oui, Fred de la librairie Impression.
Mais bon, on peut peut-être annoncer un scoop. Peut-être que le prochain livre d'Hubert Maury sera signé par deux Maury.
Oui, absolument. Ah. Il sera signé par deux Maury puisque je le fais avec mon fils Mathieu.
Et votre fils qui a quel âge?
Mon fils a 30 ans.
Et il habite un peu ici?
Alors, il habite un peu ici parce qu'on le reçoit parfois à la maison. Et surtout, il a vécu ici. Il était au lycée. Je sais plus le nom de l'école primaire ici.
Ormesson.
Non. Oui, du côté d'Ormesson. Là, du côté de
Deuil-la-Barre. Non, je sais pas. Je suis pas du tout de la région.
Ça fait longtemps, donc je me souviens plus trop. Mais
et c'est quoi les écoles ici, Fred ?
Il a été collégien, pas collégien. Non. Il a été
à l'école primaire.
À l'école primaire à Enghien.
À l'école primaire à Enghien.
Ouais.
D'accord.
Ok.
Et aujourd'hui, il travaille dans le cinéma.
Il a travaillé dans le cinéma et maintenant il travaille à la radio. Figurez-vous.
Bien. Qu'est-ce qu'il fait?
RMC et BFM TV.
Il est critique journaliste?
Non, il est graphiste, directeur artistique pour tout ce qui est mise en place de logos, d'affiches.
Ah oui, donc vous lui avez donné ce goût-là, en tout cas.
C'est plutôt une création, okay. Picturale, quoi.
Que, vous lui avez donné des conseils ou inversement?
Non, il s'est débrouillé tout seul. Mais en revanche, là, pour le prochain livre.
Ouais.
Il sera, on est co-scénariste. Voilà.
Voilà, c'est pas compliqué ça d'être co-scénariste, non?
Alors non, parce que en fait, moi j'avais déjà un scénario en tête.
Ça c'est du scoop. Hein.
C'est la première fois que j'en parle. J'avais déjà un scénario en tête, une histoire qui se passe non pas au Pakistan, non pas en Afghanistan, mais plutôt dans le contexte libano-syrien.
Oh, wow.
Mais dans les années 2020, c'est-à-dire au moment où Bachar al-Assad va chuter et au moment donné où au Liban il y a cette incroyable explosion dans le port de Beyrouth, et j'avais des personnages. Et j'avais un écueil, je rencontrais un écueil scénaristique incroyable. Et une fois, on était chez mes parents, je me souviens, dans Lot-et-Garonne, on était dans ce petit village, on était dans la nuit, on était en train de marcher, pas d'éclairage parce qu'il faisait des économies. Et je parle à mon fils de cet écueil scénaristique, lui-même ayant écrit des scénarios pour le cinéma. Je lui dis, je suis enquiquiné, j'arrive pas à m'en sortir. Et il me dit, ah ouais. Et le lendemain, il me dit, j'ai trouvé, et il m'a dit, il faut créer un nouveau personnage. Et on a créé, enfin, il a créé un nouveau personnage, qui est une journaliste, justement, donc rapport avec son métier. Et donc, on a plusieurs personnages, parce que c'est un récit assez choral. Et on a notamment ce nouveau personnage que Mathieu a carrément mis en scène dans les scènes qui concernent cette journaliste.
Ça sortira quand, normalement?
J'en sais rien, peut-être dans 2 ans.
Ah oui, oui.
C'est vrai.
Mesdames et messieurs, nous sommes en direct dans la cuisine du prochain livre de Monsieur Hubert Maury.
C'est un long processus. Glénat accepte, vous savez, si c'est chez eux ou...
Ah oui, c'est chez eux, c'est signé, ouais, bien sûr. Ouais.
Parce que ça peut changer, hein, d'une BD à une autre. Bon, ouais, en tout cas, là, vous êtes assez fidèle.
Non, là, je suis resté fidèle, mais et surtout, je remercie aussi la fidélité de Glénat qui accepte mes livres... Projets, avec enthousiasme, ouais. Donc je vais pas aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, quoi.
Eh ben merci Fred.
Excusez, oui.
De la librairie Impression.
Merci Christophe.
D'accueillir donc du coup Hubert Maury au sein de la librairie Impression, librairie à Enghien qui se trouve où? On reprécise l'adresse. C'est place Mercier, je crois.
Dans le village piéton, non. C'est la quoi, rue Jean Monnet.
Rue Jean Monnet. Je sais jamais.
C'est en face des cinémas. Vous avez un village piéton avec une fontaine et on est autour de la fontaine. Voilà.
Un village un peu de montagne parce qu'il y a des espèces de tours blanches là qui font rappeler un peu ça.
Bah, il y a surtout deux librairies, un magasin de jeux. Enfin, il y a de beaux mondes dans ce village.
Oui, oui, tout à fait. Et donc, Hubert, vous serez samedi 25 avril en dédicace à partir de 16h. On pourra presque tout vous demander. Hein.
Tout.
Et on peut venir voir les originaux qui sont exposés également.
Et j'espère que Hubert a le temps de nous faire quand même une petite dédicace et un petit dessin très rapidement, non?
Oui.
Oui, bien ok, sûr, on fait comme ça. Eh ben, merci encore à vous deux
merci
et à très
Christophe,
vite sur IDFM Radio.
Fred.